DW. Pulsation. La dernière campagne de classification de sites au patrimoine mondial de l'UNESCO le mois dernier a confirmé une tendance qui existe depuis longtemps. L'Afrique y est sous-représentée, alors que l'Europe abrite la grande majorité de ce patrimoine. Nous allons voir quelles sont les principales raisons de ce déséquilibre avant de revenir sur la mort hier du roi des Bamoun au Cameroun dans coup de projecteur. Mais pour l'instant, le mot du jour, et il est de circonstance, coalition. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti.
Le saviez-vous ?
Suite aux élections législatives de dimanche dernier, les partis politiques allemands se préparent à des tractations en vue de former une coalition gouvernementale. L'occasion pour nous de revenir sur l'origine et la signification de ce terme « coalition ». Le mot vient du latin « coalescere », qui signifie « se souder ». Le participe « coalitio », qui désigne « ce qui est soudé », a finalement donné le substantif en français. On parle de coalition principalement dans un contexte politique ou militaire. Il s'agit de la réunion de partis différents ou de plusieurs puissances autour d'un objectif commun. Cela signifie en politique que les partis qui s'allient partagent certaines idées, même si certaines divergences subsistent. Il leur faut donc trouver un compromis, mettre au point un programme commun pour remplir leur mission, gouverner un pays, une région ou une entité administrative. C'est le cas en Allemagne au niveau national, sachant, il faut le préciser, qu'il s'agit d'une coalition gouvernementale et non électorale. En effet, lors du scrutin, les partis sont opposés. Ils n'ont pas présenté un candidat commun, ce qui est pourtant permis dans la plupart des régimes démocratiques. Au bout du compte, c'est le résultat qui pousse à la formation d'une coalition. Certains considèrent les coalitions gouvernementales, notamment celles réunissant les plus grands partis, comme idéales, car, disent-ils, elles sont plus à même de représenter la diversité de la population. Une coalition, c'est donc un peu comme un mariage de raison. Même si ce n'est pas forcément le grand amour entre les partis, ils s'entendent suffisamment bien afin de trouver des consensus pour diriger ensemble le pays.
Baril de pétrole, baril de sang, c'est nous les marionnettes aux yeux des puissants.
Pour illustrer le mot du jour, voici le chanteur franco-malien Mokobé. Ça s'appelle « Politique Amani ». La politique, c'est pas bon. Une opinion, bien sûr, qui n'engage que lui.
Existe en maison, dans le nord venant du sud. Et vu que la faim est plus forte, les pigeons qu'on plume. Politique bise, tu bloues dans ta bouche. Ton modèle, c'est bouche. Politique bouge, tu parles dans le vent. Tu craches sur les gens, tu nous mens sciemment. Tu n'as aucun sentiment.
Politicien, aïe à la mer, aïe à la mer, aïe à la mer. Politicien, aïe à la mer.
Vous écoutez la DW, c'est Pulsation, le magazine Jeunes et Culture. 8 mosquées dans le nord de la Côte d'Ivoire et le parc national d'Ivindo au Gabon, ce sont les deux nouveaux sites africains entrés au patrimoine mondial de l'UNESCO cette année. Parmi les 34 candidats désignés par le comité, 16 viennent d'Europe et 16 d'autres régions du monde. Un déséquilibre net en faveur de l'Europe. Près de la moitié des 1154 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO se trouvent en Europe et moins de 100 en Afrique. L'archéologue kényan George Abungu a une explication simple pour expliquer que le continent européen soit surreprésenté au patrimoine mondial de l'UNESCO.
First of all, convention was made in 1972. That is nearly 50 years ago.
La convention a été signée en 1972, il y a presque 50 ans. À l'époque, la plupart des membres de l'Assemblée étaient des hommes européens. Elle est donc évidemment plutôt eurocentrée. C'est une convention fantastique tournée vers un patrimoine de valeur universelle exceptionnelle, mais la définition de la valeur universelle était eurocentrée dès le départ. Pour figurer sur la liste, les pays africains devaient prouver une valeur correspondante à la vision occidentale.
George Abungu n'est pas le seul à relever l'eurocentrisme du processus de désignation des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Christophe Brumann, de l'Institut Max Planck de recherche ethnologique de Halle en Allemagne, partage son avis.
Au départ, le patrimoine mondial a été conçu de manière plus ou moins tacite autour du patrimoine élitiste et monumental de l'Europe. On a pensé aux cathédrales, aux palais, aux temples, aux vieilles villes historiques.
D'ailleurs, les critiques à ce sujet ne sont pas nouvelles. Elles existent déjà depuis une trentaine d'années, précise Christophe Brumann, ce qui a conduit à des réformes selon lui. Aujourd'hui, le patrimoine ordinaire et les paysages où l'action humaine sur l'environnement est particulièrement intéressante peut également figurer sur la liste. Cela joue en faveur des nominations africaines. Le problème, selon l'ethnologue, se situe autre part. Il y a trop peu de demandes en provenance des pays africains. Et pour cause.
Pour les pays disposant d'un meilleur savoir-faire, d'une plus grande expérience en matière de conservation de monuments et de sites naturels et de plus d'argent, il est plus facile de monter un dossier que pour de nombreux pays africains.
Effectivement, les exigences sont élevées. Des dossiers de plusieurs centaines, voire d'un millier de pages, doivent être constitués pour candidater. Or, pour venir en aide au continent africain en la matière, les moyens sont limités, concède Mechthilde Rössler. Elle est directrice du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO à Paris depuis 2015. Même si des progrès ont été réalisés, notamment grâce aux dons du Fonds africain du patrimoine mondial, beaucoup reste à faire selon elle.
Nous constatons que nous devons faire beaucoup plus dans certaines régions pour préparer des candidatures solides et promouvoir le renforcement des capacités en vue de la conservation, de la gestion sur le terrain et de la préparation aux risques. Car de nombreux sites du patrimoine mondial sont menacés. C'est une tâche énorme à accomplir.
Les universités devraient jouer un rôle plus important dans ce domaine, selon Mechthilde Rössler. En particulier pour ce qui est de la protection du patrimoine culturel. Les experts pourraient aider à la compilation d'études et de documents pour la candidature d'un pays. Mais les gouvernements respectifs sont aussi concernés. L'archéologue kényan George Abungu critique également le fait que les universités se sont longtemps tenues à l'écart, mais que nombre d'entre elles luttent également pour survivre. Le Fonds africain du patrimoine mondial doit soutenir 54 pays avec des ressources limitées, ce qui n'est pas possible. La stratégie de l'UNESCO visant à créer plus d'équilibre dans les nominations à travers le monde a échoué, dit-il, avant de soulever un autre problème.
La principale raison pour laquelle les gouvernements africains ne font pas pression pour que leur site soit répertorié, c'est qu'ils craignent qu'une fois répertorié, ils ne puissent plus mener de projets de développement.
Par exemple, parcs. Vous savez, certains de ces parcs were made during the colonial time.
Prenez les parcs nationaux, par exemple. Les communautés y ont été déplacées à l'époque coloniale. Aujourd'hui, elles veulent récupérer leurs terres, qui souvent contiennent des minéraux précieux ou d'autres ressources. Or, une fois que vous les avez listés, les sites doivent rester intacts.
But once you list it, it has to be pristine.
C'est le problème de la réserve naturelle tanzanienne de Selous, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et où le projet de construction d'un méga barrage suscite de vives critiques. C'est pour des raisons similaires que de nombreux sites protégés par l'UNESCO en Afrique sont classés comme menacés, explique George Abungu. En République démocratique du Congo, où sévit notamment un conflit armé pour les matières premières, des sites ont déjà été retirés de la liste. Le tourisme, que l'on met souvent en avant comme étant boosté grâce aux sites classés, n'incite pas non plus les États, les municipalités ou d'autres investisseurs à investir de l'argent et du travail dans une candidature au label de l'UNESCO, explique l'archéologue. Le tourisme est bien trop peu développé dans la plupart des régions pour qu'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO puisse y attirer des flux importants de visiteurs.
Il est nécessaire que la communauté internationale et la Convention reconnaissent que l'Afrique a ses propres besoins. Il faut aussi que les gouvernements africains et les communautés comprennent que la Convention est un vecteur de conservation qui les aidera à préserver.
Mais les politiciens ont leur propre intérêt, l'exploitation des ressources, les emplois et le profit. Par conséquent, cela n'est possible qu'avec l'aide du Nord global, pensent beaucoup d'experts qui, comme George Abungu, plaident pour un changement de stratégie. Investir davantage du Nord vers le Sud afin de protéger notre patrimoine commun de l'humanité. Merci à Martina Chwikowski qui a recueilli ces témoignages pour la DW.
Projecteur.
Les Bamoun, membres d'une ethnie de l'ouest du Cameroun, dans la région du Grassland, où vivent aussi les Bamileke, ont perdu leur roi. En effet, hier, dans la nuit, Ibrahim Mbombo Nyoya est décédé à l'hôpital américain de Paris à presque 84 ans. Il a succombé à une infection sévère de Covid-19. Il avait été haut fonctionnaire au sein du régime colonial du Cameroun avant de faire une grande carrière politique après l'indépendance qui lui aura valu d'occuper de nombreux postes de ministre sous Paul Biya. En 1992, après avoir été intronisé sultan roi des Bamoun, il avait démissionné du gouvernement pour se consacrer à ses nouvelles fonctions traditionnelles. On se quitte sur les notes de saxophone d'un autre Camerounais, Manu Dibango, Pan-African Jam. Merci de votre attention. Le podcast est disponible sur dw.com/français. Bonne continuation à l'écoute de la DW. Salut !